France Inter.
Un monde nouveau. Bonsoir Mathilde Serrel.
Bonsoir Claire Chicaglini. On est en direct du Grand Palais à Paris pour le Festival du Livre de Paris. Devant le meilleur public du monde, évidemment. Prochain journal à 19h et d'ici là, en route pour un monde nouveau. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Un Monde Nouveau, une émission qui chaque samedi s'intéresse au bouleversement de nos sociétés et aux grands marqueurs de l'époque. Cette semaine, profitons de notre présence au Festival du Livre de Paris pour se pencher sur le nouveau phénomène littéraire mondial, la saga dont tout le monde parle et qui pulvérise les records de vente. J'ai nommé La femme de ménage de Frida McFadden.
Mais je pense que j'ai aussi eu de la chance, il y a beaucoup de bons livres partout. C'est une lancée qui semble maintenant inarrêtable, et une fois que ça y est, que les gens lisent vos livres, ils vont continuer.
Ça, c'était donc Frida McFadden, cette américaine de 44 ans, très discrète, qui donne peu d'interviews et qui est aujourd'hui l'autrice la plus lue au monde, avec 17 millions de livres écoulés et près de 2,5 millions rien qu'en France. La femme de ménage, sa saga phare en 3 tomes, reconnaissable à leur couverture, avec un œil qui regarde à travers le trou d'une serrure, est aussi devenue un phénomène viral, propulsé par BookTok, les recommandations de lecture sur TikTok, attirant toujours plus d'adeptes. Alors ce soir, on va tenter de comprendre la recette Frida McFadden avec son éditrice en France et 2 créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Et puis seconde partie d'émission avec une primo-romancière de 27 ans qui nous rejoindra, vous la connaissez peut-être déjà, après Lila Hassen, Panayotis Pascaud ou encore Erit Metzger, la pépinière quotidienne de Yann Barthès a fait éclore une nouvelle plume, la chroniqueuse Ambre Chalumeau qui publie Les Vivants chez Stock, un récit centré sur le passage à l'âge adulte.
Et rigolez les mecs, n'empêche qu'on est que 5 petits branleurs. On se fait virer des cafés, on n'a jamais un rond, on sèche les 3/4 des cours, on n'aura jamais le bac. Et j'aimerais bien voir la gueule qu'on aura tous dans 10 ans.
Ouais, c'est vrai, tous des chômeurs.
Vous aurez reconnu Le Péril Jeune de Cédric Lapiche, sorti en 1994. Quand on cesse d'être, je cite, des branleurs, c'est souvent un moment difficile. Mais comment vit-on cette fin de l'insouciance au XXIe siècle, dans une époque si connectée et chamboulée? On en discutera avec notre jeune autrice. Bienvenue dans Un Monde Nouveau.
France Inter, Un Monde Nouveau, en direct du Festival du Livre de Paris, Mathilde Serrel.
J'ai lu La femme de ménage en même pas 24 heures, alors que ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas ouvert un livre.
Je suis choquée, j'ai 26 ans, je n'ai jamais lu de livre en entier.
Si vous avez vu mon dernier TikTok, je vous avais dit que je voulais absolument me remettre à la lecture, notamment avec ce livre-là, La femme de ménage de Frida McFadden. J'ai adoré. C'est quoi ce livre de zinzin?
Il est extrêmement simple à lire, on m'avait prévenu.
Ça fait 24 heures que je l'ai fini, j'en suis encore sur le cul.
J'ai déjà presque terminé le tome 2, je suis
c'est
à plus de la
de
moitié du livre.
Je suis obligée
de faire des choses
et de parler de sur les réseaux sociaux.
Je l'ai fini en 4 jours et croyez-moi bien que je l'aurais fini en un jour.
J'ai craqué, j'ai acheté le livre, le fameux.
J'ai craqué. J'ai acheté le livre Le Fameux, lequel évidemment La femme de ménage de Frida McFadden, saga devenue incontournable, qui ne dévisse plus du top des ventes en France et dans le monde depuis des mois. Pour comprendre le phénomène, j'ai réuni donc 3 invités autour, enfin devant cette table précisément. Hélène Fiamma, bonsoir.
Bonsoir Mathilde.
Vous êtes directrice de la collection J'ai lu, vous avez un stand hein, juste à côté. Vous êtes directrice depuis 2019. Vous éditez la saga La femme de ménage en France en version poche. Et vous présentez un nouveau livre d'ailleurs de Frida McFadden en avant-première ici au Festival du Livre de Paris, La Psy. Enzo Ritz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes créateur de contenu très suivi sur TikTok avec 150 000 abonnés. Et vous avez 2 podcasts, dont un consacré à littérature, livre Love Enough avec Luna Dicqua et l'autre Ça m'a saoulé.
C'est ça, merci.
Consacré à votre passion, la râlerie, votre autre
exactement.
Passion. Et enfin, nous avons aussi une créatrice de contenu, Elodie.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes booktalkeuse, comme on dit, c'est-à-dire que vous parlez de vos lectures sur TikTok.
C'est ça.
Et vous êtes aussi prof de français actuellement en remplat dans un collège.
C'est ça.
Je vous propose de prendre la main, Elodie, et de nous faire le pitch de La femme de ménage. Vous avez consacré l'une de vos vidéos au tome 1. Alors parlez-nous de Millie Calloway.
Ok, c'est parti. Alors dans La femme de ménage, on va retrouver Millie Calloway, qui est une femme qui veut repartir à zéro Et elle va trouver un nouvel emploi en tant que femme de ménage dans une famille riche à New York. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va être acceptée. Et quand elle va être acceptée, tout va bien dans la maison. Tout se passe bien. Rien n'est étrange. Jusqu'au moment où on lui attribue une chambre et qu'elle se rend compte que la porte ne se ferme que de l'extérieur. Et à partir de là, l'aventure va commencer.
D'où le petit trou de serrure qu'on voit sur toutes les couvertures. Alors, je vais vous lire un court extrait du tome 1 pour vous plonger dans l'univers de Frida McFadden. Le paysagiste Enzo est dans le jardin de derrière maintenant. Il passe la tondeuse à gazon. Il s'arrête un moment pour essuyer la sueur de son front avec son avant-bras musclé. Et puis, il lève les yeux. En voyant mon visage à travers la petite fenêtre, il secoue la tête, comme il l'a fait la première fois que je l'ai rencontré. Je me souviens du mot qu'il m'a sifflé en italien avant que j'entre dans la maison. Pericolo. Alors voilà pour le style de Frida McFadden. Et on comprend tout de suite qu'on ne peut plus lâcher le livre, notamment pour comprendre de quel danger Pericolo parle ce fameux jardinier musclé en diable. Mais la femme de ménage n'est pas un page-turner de plus. Hélène Chama, je m'adresse à l'éditrice. En quoi c'est un phénomène inédit dans la vitesse, par exemple, avec laquelle ça a pris?
Alors Mathilde, avant de vous dire mes hypothèses sur le sujet, je vais d'abord vous dire que c'est pour des éditeurs ce qu'on a vécu avec La femme de ménage, quelque chose d'absolument extraordinaire et exceptionnel. Parce que ce livre, il a été découvert en France par un éditeur qui s'appelle Frédéric Thibault, qui dirige City Edition.
Oui.
Et qui le publie en janvier 2023. Et j'aime autant vous dire qu'à ce moment-là, Frida McFadden, personne ne sait qui c'est. Elle est autopubliée aux États-Unis et Frédéric fait son rôle d'éditeur. Il lit le texte, il en devient dingue, il décide de le publier, il décide qu'il va travailler avec un éditeur de poche. Nous achetons les droits chez J'ai lu. Et Frédéric le publie en janvier 2023, à une date où, je répète, Frida McFadden, personne ne sait ce que c'est.
Donc de 2023 à 2025, en à peine 2 ans, c'est l'autrice la plus lue au monde. C'est assez phénoménal.
Voilà. Pour le coup. Nous, chez J'ai lu, on publie le premier tome de La Fac de Ménage en octobre 2023. Et là commence une aventure que, honnêtement, de mémoire de vieille éditrice, parce que contrairement à Enzo et Elodie, moi je suis une vieille personne, j'ai 55 ans.
Oh là là.
Et dont 40 ans, 50 ans, 70 ans dans l'édition.
Et attendez, comment vous faites?
Eh oui, quand on est éditeur,
c'est pas
on
les maths,
est toujours. Mais en vérité, je n'ai jamais vécu une aventure comme celle-là. Et je crois que dans l'édition, très peu d'entre nous avons vécu une aventure comme celle-là. Et ça, je vous le dis parce que c'est important de le partager avec vous. Un éditeur, ça publie des livres qui ne marchent pas toujours. Et quand ça arrive, une chose comme ça, c'est une joie absolue.
Et par rapport à d'autres phénomènes, on avait eu 50 nuances de grès, on a vu des choses aussi. Sarah Rivens, La Captive, qui était auto-éditée aussi, qui a emballé les ventes comme ça d'un coup. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé de plus, de différent avec Frida McFadden?
Alors pour moi, la caractéristique de Frida McFadden, et j'insiste sur le fait que je dis bien Frida McFadden parce qu'elle a écrit la trilogie de La femme de ménage, elle a écrit La psy qu'on publie en poche dans quelques jours, mais alors en même temps, spoiler alert, comme disent les Jones, elle publie en grand format chez City un livre qui s'appelle La prof, qui sort mercredi prochain, et qui est à titre très personnel mon préféré de Frida. Je l'appelle Frida, je ne l'ai pas encore rencontrée, mais je l'appelle Frida. Et pour moi, il n'y a pas de recette chez Frida McFadden, mais il y a quelques éléments constants. D'abord, il y a des personnages féminins qui sont femmes de ménage, profs, qui exercent de petits métiers un peu dans les interstices de la société et qui sont d'ailleurs, je tiens à le dire, pas forcément toujours très sympas. Ça, c'est une particularité pour moi de l'écriture de Frida McFadden. Et pour autant, parce que cet auteur a un art de la narration et notamment de ce qu'on appelle le twist qui est absolument exceptionnel, c'est-à-dire que moi-même, vieille éditrice, encore une fois, je lis un bouquin, j'en ai lu quelques milliers dans ma vie, je me dis, bon, tu vas m'emmener là, je sais très bien, c'est lui qui a fait le coup, etc., etc. Et à chaque fois, je me fais avoir. Et ça, c'est dingue.
On va revenir justement sur les ressorts de l'écriture de Frida McFadden et ce qui fait que ça fonctionne au-delà de cette saga en 3 tomes, La femme de ménage. Enzo Reed, vous ne vouliez pas lire La femme de ménage au départ?
Non, je ne voulais pas de base, parce que tout le monde le lisait et moi, je ne voulais pas être comme les autres, mais je me suis fait avoir au final.
Donc pourquoi est-ce que vous avez eu envie de le lire et une fois que vous l'avez eu dans les mains, pourquoi vous n'avez pas pu le terminer?
Eh ben en fait, tout le monde autour de moi le lisait, je le voyais passer sur les réseaux sociaux, ma meilleure amie me le conseillait, me disait il faut que tu le lises, il faut que tu le lises. Et donc du coup, bon ben je l'ai pris à la librairie, je l'ai acheté et c'est vrai que j'ai pas pu le lâcher en fait. Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs par rapport à ça, parce que c'est vrai quand je l'ai terminé, j'ai été assez critique par rapport au livre et c'est vraiment après quand j'ai vu le bout de chemin qu'il a fait que je me suis rendu compte un peu des raisons un peu plus précises de pourquoi il y a eu ce succès-là. Bon déjà, en termes d'écriture, c'est hyper clean et la façon dont elle aborde la précarité tout en ayant une écriture hyper, hyper clean, hyper minimaliste, c'est un peu Annie Ernaux qui rencontre Marie Kondo. Donc,
Annie Ernaux qui rencontre Marie Kondo, voilà, ok, c'est le meilleur pitch qu'on ait eu sur.
Je vais recruter Enzo pour travailler avec moi chez J'ai lu.
J'ai l'impression.
Pour son art du pitch.
C'est le bandeau que vous allez mettre maintenant, ce livre de poche.
J'en serais honoré. Et puis aussi, c'est une histoire qui est assez touchante au final parce que c'est l'histoire d'une femme de ménage qui a sa vie qui est pas mal en bordel et qui tombe en ruine, mais pourtant elle nettoie quand même les miettes de la vie des autres. Donc il y a une histoire touchante. Et puis aussi, je pense que juste le rapport à la précarité, dont la façon dont écrit la précarité Frida McFadden, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on est face à une femme de ménage et c'est une personne qu'on ne voit jamais, en fait, qui est tout le temps en backstage et à qui, malheureusement, il y a encore beaucoup d'a priori sur ce métier.
C'est la première fois qu'en littérature, on s'intéresse de si près à un personnage. On a eu quand même chez Flaubert, on a vu ce genre de personnage, mais c'était ça aussi qui était inédit, Enzo, Hélène Fiamma.
Alors, à mon sens, ça n'est pas inédit, puisqu'il y a quand même une tradition en littérature, y compris française, en effet, chez Flaubert, des personnages un peu mineurs, mais qui sont, au fond, ils sont, en réalité, ces personnages, le trou de serrure par lesquels nous accédons, nous, humbles mortels, au monde des grands, etc., etc. Donc, c'est quand même un motif qui est tout à fait structurel en littérature, qui est relativement nouveau en polar et qui est pour moi une composante en effet du succès de Frida McFadden, mais qui n'est sans doute pas la seule.
Et c'est le regard aussi qui est porté, c'est ça,
Enzo ? Exactement, le regard est important, donc désinvisibilise, attention c'est un mot compliqué, des métiers qui sont beaucoup trop invisibilisés, et aussi on la rend très humaine parce que cette femme de ménage, il n'y a pas de misérabilisme non plus, c'est un personnage qui n'est pas manichéen du tout, c'est un personnage qui a beaucoup de profondeur, beaucoup de couches, et puis je pense aussi que le récit parle beaucoup à notre génération, notamment vis-à-vis du monde du travail en fait, parce que là on a la frontière entre son métier et sa vie perso qui est hyper floue, enfin les deux se mélangent, et donc du coup je pense que en fait, c'est des thèmes qui parlent beaucoup à notre génération, et c'est pour ça que les millennials et la Gen Z notamment ont pris d'assaut ce livre, parce qu'en fait c'est un parfait mix match entre plein d'éléments.
Et ça vous parle aussi, le monde du travail, pour ceux qui vous suivent sur TikTok, parce que les RH, on en entend beaucoup parler.
Ah, j'y attendais pas, celle-là.
Sur le TikTok d'Enzo. Ah, si, je vous ai regardé, j'ai passé pas mal de temps.
Merci.
Vous avez été ma Frida McFadden. Vous restez avec nous, on va tenter de comprendre, de percer le mystère ou pas du phénomène Frida McFadden juste après. La princesse du Midwest, c'est Chaperone sur France Inter.
Boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. You Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. Mama Brown, it's gonna cause a scene. She sees her baby.
Chaperone et son Pink Pony Club sur France Inter, une chanson qu'elle a écrite il y a 6 ans, inspirée par une nuit dans un bar gay du West Hollywood, à une époque où elle ne se doutait pas un instant qu'elle deviendrait une icône mondiale de la pop, un peu comme Frida McFadden. Chaperone sera de passage fin août au festival Rock en Seine pour un unique concert en France. On y sera, ça promet d'être phénoménal.
Moi j'y serai perso.
Mathilde Serrel, Un Monde Nouveau, en direct du Festival du Livre de Paris, sur France Inter.
Et oui, toujours en direct du Festival du Livre de Paris. Allez, de la joie, des cris. Il y a une ambiance un peu glamour aussi cette année, une ambiance presque Festival de Cannes, mais des livres. Voilà, enfin vous verrez. Alors, on va parler d'un autre phénomène littéraire, donc c'est la femme de ménage après Chaperone. Une autrice américaine, Frida McFadden, autour de moi, des TikTokers, BookTokers, Enzo Reads et Elodie, ainsi que la patronne de J'ai lu, Hélène Fiamma, qui édite Frida McFadden en poche en France. Je voudrais qu'on parle d'abord avec vous, Elodie, votre hypothèse, parce que chacun a un petit peu mis sur la table ce qu'il imaginait comme raison à cette percée très rapide et assez massive, je veux dire, première autrice la plus lue dans le monde. En 2 ans, c'est quoi votre hypothèse pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé avec Frida McFadden?
La raison pour laquelle elle est aussi connue aujourd'hui?
Et pourquoi tout le monde lit La Femme de Ménage?
Parce que je pense que la plume est extrêmement simple, elle est légère. Quand on lit, finalement, le livre est un page-turner, donc on n'a pas forcément envie de s'arrêter. On lit, on ne s'arrête pas. Et même quand on a envie d'arrêter, on continue de lire. Moi, j'ai lu rapidement. Enfin, j'étais dans mes toilettes, dans la salle de bain, dans ma chambre, sur mon canapé, et je n'arrivais pas à lâcher le livre. Je l'ai même écouté sur Spotify parce que je ne voulais pas m'arrêter. Et en fait, je pense que c'est vraiment ce côté où, à la fin de chaque chapitre, on a cette envie de savoir ce qui va se passer après. Et en fait, il y a cette curiosité un peu malsaine, je vais dire, à la fin de chaque chapitre qui donne envie de continuer. Et c'est ça qui fait que Frida McFadden a le succès qu'elle a aujourd'hui.
Vous dites que c'est un peu creepy dans votre vidéo.
Oui.
Ça veut dire quoi?
Creepy, ça veut dire qu'on a une atmosphère un peu lourde, elle fait un peu peur. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à lire le bouquin, je me suis dit « Ouh, qu'est-ce que je suis en train de lire ?» C'est très étrange, c'est très sombre. Mais finalement, on s'y fait et on comprend l'ambiance. Et les éléments, je trouve, qui sont bien amenés.
Hélène Fiamma, dans quel genre, du coup, on peut ranger La Femme de Ménage? Moi, je proposais thriller psychologique, dark domestique.
Alors, vous êtes tout à fait... vos catégories sont très très pertinentes, Mathilde.
Ah, merci.
C'est ce qu'on appelle en effet du thriller psychologique ou du suspense psychologique. Il y a des termes qui désignent un peu la catégorie de livre à laquelle appartient La Femme de Ménage. Mais pour moi, ça n'épuise pas en fait le succès du livre. Parce que, et là encore je parle de mon point de vue qui est le point de vue d'une éditrice, moi ce qui me stupéfie dans ce succès, c'est que, alors là on est dans l'ordre non pas de la raison ou de la cause du succès, mais je dirais du symptôme, mais je vous avoue que moi je n'avais jamais vu avant deux phénomènes. Le premier, c'est les gens qui n'ont jamais lu un livre de leur vie.
On l'entendait un peu dans les montages des TikTok.
Et je parle de gens qui ne sont pas forcément des gens jeunes, hein, des gens qui ont passé leur vie et très bien, sans avoir de livre chez eux, sans en lire, etc., qui sont tombés un peu par hasard sur La Femme de Ménage et qui l'ont lu et qui ont été contaminés par le virus de la lecture. Alors moi, en tant qu'éditeur, si vous voulez, c'est... là, on peut tous pousser des hurlements. Hein, c'est une espèce de joie absolue. Hurlez, s'il vous plaît.
Hurlez.
Merci.
Frida McFadden a remis tout le monde à la lecture. D'ailleurs, c'est intéressant, sur le bandeau des éditions Poche, vous avez choisi de dire « Nous l'avons lu en moins de 2 heures et vous ». C'est-à-dire que vous pariez justement sur ce livre, on dit souvent qu'il y a des livres déclic pour
absolument
se mettre ou se remettre.
Alors,
à la
je
lecture.
Reviens à la cuisine de l'édition. Quand on a acheté les droits, donc c'est une éditrice chez J'ai lu qui s'appelle Anne Mézeray qui a flairé le livre, qu'il a eu aux enchères pour qu'on le sorte ensuite en poche.
Et ça veut dire quoi aux enchères?
Ah ben ça veut dire qu'il y a plusieurs éditeurs de poche qui disent je veux acheter les droits de ce livre pour le publier en poche et puis que. On fait des enchères. C'est J'ai lu qui l'a emporté, notamment grâce à la conviction d'Anne. Et puis, on a été plusieurs à le lire chez J'ai lu. Et quand je vous dis plusieurs, c'est qu'au bout d'un moment, enfin, je crois que 80% de la boîte avait lu le bouquin. Et on parle, mais bien avant de le sortir. Et souvent, vous savez, les livres, le succès d'un livre, ça commence par ça. Ça commence par... Nous, on publie beaucoup de livres chez J'ai lu. Hein. On en publie 350 par an. Et là, il s'est passé un truc de dingue. C'est-à-dire que tout le monde l'a lu et tout le monde se le passait. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un truc. Et c'est vrai qu'on a commencé un peu à regarder ce qui se faisait sur les réseaux. On est assez puissant sur les réseaux sociaux. On a une équipe marketing absolument formidable. Et là, c'est vrai que la question du temps de lecture m'a alertée. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui faisaient... je ne vais pas parler avec l'expertise de Enzo et Elodie parce que j'ai l'air comme ça, mais j'y comprends rien aux réseaux sociaux. Je me contente de regarder un peu ce qui s'écrit dessus, naturellement. Mais une chose qui me frappait, c'était les gens qui disaient « Moi, je l'ai lu en une heure. Moi, je l'ai lu en une heure et demie. » Mais comme si c'était une espèce de concours, ce qui n'est pas du tout, d'ailleurs, ma conception de la lecture. Mais je me suis dit « C'est dingue. » Et si on faisait autre chose ? Pourquoi ? Parce que dans le marketing qu'il y a justement, et je reviens à votre question, Mathilde, autour de « Est-ce que c'est un polar ?» Au fond, les polars, c'est toujours un peu la même chose. Nous, les éditeurs, on dit le phénomène international, le best-seller de vos nuits blanches. Enfin, on n'est pas super bon ni super inventif. Je trouve ça hyper chiant, franchement. Et c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, si on essayait autre chose. Et on est parti de ce que nous disaient les lecteurs du livre en grand format, paru chez City, à savoir, je l'ai lu très vite. Et on s'est dit, on va en faire un axe de communication.
Enzo, vous, c'est la même chose. Vous avez vu autour de vous des gens qui ne lisaient pas ou qui ne lisaient plus se remettre à la lecture avec la femme de ménage.
Et c'est toute la beauté du phénomène, parce que je sais qu'avec l'avènement un peu des réseaux sociaux, l'arrivée du BookTok, du Bookstagram, il y a quand même, si je peux me permettre, un peu des boomers, voilà, je vais le dire, qui se plaignent un peu des genres qui sont mis en avant, des best-sellers, que ce soit la romance, par exemple, ou la fantasy.
Là, ou la fameuse dark romance. Avec des jeunes filles parfois sous emprise de vilains messieurs.
Exactement, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, pour les genres un peu plus classiques, on va dire, bon là, en l'occurrence, c'est un thriller domestique. C'est là où la beauté du phénomène réside. Et je pense qu'on devrait vraiment tous être contents, peu importe ce qu'on pense du livre. Parce qu'à la fin de la journée, en fait, on a des gens qui n'ont jamais lu, qui ont lu, qui donnent envie aux autres de lire. Et aussi, c'est une belle porte d'entrée dans la lecture pour les gens qui se sentaient un peu intimidés, etc. Et puis en plus, ça donne envie aux... Enfin, par exemple, je sais que j'ai des amis qui ont adoré le style un peu de thriller domestique et qui se sont dirigés vers d'autres livres. Par exemple, là, je pense à Toutes ces fautes d'André Amara qui est sorti aux éditions Point, qui est un peu dans le même style, qui fonctionne très bien aussi. Et donc, ça donne vraiment aux gens envie de lire et d'aller vraiment au fond, de découvrir plein d'autres livres. Et c'est une excellente nouvelle pour l'édition et pour toutes les personnes, les amoureux de lecture comme nous.
Et Elodie, vous qui êtes en remplacement en ce moment en tant que prof de français dans un collège, est-ce que vous passeriez par La femme de ménage de Frida McFadden pour réengager les jeunes dans la lecture ? Je vous rappelle qu'on a vu des chiffres inédits, hein, c'est vrai, les Français n'ont jamais aussi peu lu. C'est alarmant.
Pour le coup, je dirais non, parce que j'ai quand même des troisièmes et on va pas. Enfin, dans le livre, il y a quand même certains passages qui sont d'une extrême violence. Et je pense pas que ce soit des livres qui soient adaptés à un lectorat qui a à peine 15 ans. Donc je pense que l'année d'après, pour des lycéens, pourquoi pas. Mais pour des collégiens, tout comme la dark romance, ce serait quelque chose que je déconseillerais, mais totalement. Parce que c'est encore des personnes qui sont en formation au niveau du cerveau. Et normaliser ces choses-là, pour moi, c'est pas possible. Donc je pourrais pas les recommander. Et même en tant que prof, j'ai quand même une certaine image, même si je lis. Après, j'ai 29 ans, donc je peux pas m'excuser quand même d'aimer ce genre de bouquin, mais je les recommanderais pas à des plus jeunes. Je pense qu'il y a un âge pour lire chaque livre, et si les âges sont mentionnés, c'est bien pour quelque chose. Parce que je pense qu'on ne recommanderait pas n'importe quel film à un certain public. Et pour moi, c'est la même chose pour les livres.
Tout n'est pas bon pour remettre les ados à la lecture. Merci Elodie.
Exactement.
Sans trop divulgâcher, le mari des Winchester, donc la fameuse famille riche qui va employer la femme de ménage, il a un profil finalement sympa en apparence, mais de manipulateur. Donc c'est vrai que là, on frôle avec des choses qui peuvent être justement de l'ordre de la dark romance. Il y a quelque chose là-dedans ou pas ? Vous
dans
diriez quoi, Elodie ?
Ouais. Dans le livre de Frida McFadden, je ne trouve pas qu'il y ait cet aspect dark romance. Moi, je parlais vraiment de la violence des actions qui vont se dérouler au fur et à mesure. Mais on n'est pas sur cet aspect-là. La dark romance, c'est vraiment une relation malsaine entre deux personnes. Donc, ça va être, par exemple, une relation entre un kidnappeur et la personne qui a été kidnappée. Ça va être des relations toxiques, des relations violentes. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, en tout cas, dans La femme de ménage, on ne retrouve pas cet aspect, étant donné que ce n'est même pas un livre de romance. C'est un thriller domestique. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout.
Vous avez d'ailleurs remarqué, Hélène Fiamma, que le thriller domestique, c'était un genre complètement abandonné, finalement, ces dernières années. C'est ça qui est d'autant plus remarquable avec le succès de Frida McFadden. Plus personne n'en lisait. C'était quoi, les grands thrillers domestiques? Et comment ça s'est, s'est un peu dissipé comme engouement?
C'est un genre qui a eu vraiment des heures de gloire. Hein. Je pense à La fille du train de Paula Hawking, aux Apparences, qui est un très, très, très beau livre de Gillian Flynn. Mais c'est vrai que ces livres ont paru il y a déjà des années et que nous tous, les éditeurs, on considérait le genre comme, vous savez, les livres, c'est des cycles, hein, on n'invente pas forcément grand-chose, mais les gens se portent plus ou moins vers tel ou tel pan de la littérature. Et en l'espèce, peu de livres ont émergé ces dernières années dans le thriller domestique. Et
il y a eu
c'est
Propre
vrai que...
aussi qui est sorti récemment, qui a bien marché, d'Andrea Zouran, je crois, Propre. Couverture rose, qui a bien marché aussi juste avant.
Ouais. Ah là, c'est le moment où moi, je ne l'ai pas lu Propre.
Il y a peut-être que moi qui l'ai lu.
Je connaissais du Propre d'Orelsan, j'aime bien cette chanson.
Vous avez sans doute raison, Enzo. Ce que je voulais dire, c'est que les phénomènes que j'évoquais ont été vraiment des Uber phénomènes de vente en thriller domestique. Et qu'il y en a, à ce niveau-là de vente, il n'y en a pas eu ces dernières années, voilà.
Totalement.
Et que nous, on est arrivé avec ce livre qui s'inscrit, si on veut, dans ce genre.
Misery, par exemple, c'est un thriller domestique ? Non.
Non.
C'est quoi le grand thriller domestique que tout le monde connaît ?
C'est La fille du train, vraiment, Paula Hawking. C'est un livre qui s'est vendu à 500 000 exemplaires en grand format, 500 000 en poche, il y a des années, 1 million d'exemplaires en France, hein, donc c'est quand même quelque chose. Alors, je voudrais revenir à ce que dit Élodie, si vous permettez, parce que je suis absolument d'accord avec elle, et pas d'accord. Ah. Je suis absolument d'accord avec Élodie pour dire qu'il n'y a absolument aucun élément significatif et distinctif de la dark romance chez Frida McFadden dans tous ses bouquins. Pourquoi ? Parce que elle n'utilise pas comme matériau des relations en effet très ambiguës et toxiques entre les hommes et les femmes, etc., etc. Là où c'est vrai que je l'ai remarqué, on clôture cette journée du Salon du Livre. Moi, j'étais sur le stand toute la journée, d'où mon élocution un peu fatiguée d'ailleurs. Et
non,
c'est
va.
Vrai que j'ai vu arriver mais des centaines et des centaines de lecteurs. C'est pour ça que j'y suis, pour voir les lecteurs. Et parmi eux, beaucoup de jeunes lecteurs. Et beaucoup de jeunes lecteurs qui achètent les livres de Frida McFadden.
Alors, quand vous dites jeune, c'est...
Alors, moi, j'ai toujours du mal à dater les gens qui ont moins de 40 ans aujourd'hui. Mais vous voyez, j'irais entre 15 et 20 ans, quelque chose comme ça. Et à la différence d'Élodie, c'est vrai qu'il y a des scènes, deux, trois scènes un peu gratinées, notamment dans La femme de ménage, dans une scène que j'adore et que je ne vais pas vous raconter aujourd'hui, mais que j'adore, la plus horrible. Mais en même temps, je me dis, depuis 3 ans, tout le monde râle, hein, parce que les jeunes filles en particulier, les très jeunes filles, les pré-ados, lisent de la dark romance, etc., etc. Et elles ne lisaient absolument pas de polar. Si on s'en tient à la définition générique, elles ne lisaient pas de polar. Elle se jette dans Frida McFadden. Alors, bon, moi, encore une fois, je suis une sorte de vieille féministe. Ce qui est quand même épatant chez Frida McFadden, c'est que les femmes en question, qui, je répète, ne sont pas toujours très sympas, hein, elles ne sont pas forcément très attachantes, mais elles ont subi un certain nombre de violences dans le passé, et il arrive ce moment où elles se vengent. Et je dois vous dire que moi, je trouve ça assez épatant. Alors, elle se venge.
Il y a un côté Tarantino, quoi. Ça finit un peu voilà. En boulevard de la mort.
Merci, Mathilde. Elle se venge, en général, dans le sang, etc., etc. Mais pour moi, on comprend qu'on est dans la fiction parce que chez elle, en revanche, chez Frida, il n'y a pas beaucoup de détails vraiment gore. Mmh. Au sens où il y a des détails vraiment gore dans des thrillers du même genre. Il y en a quelques-uns. Mais ce n'est pas une littérature qui est fondée là-dessus. En revanche, ce qu'elle actionne très puissamment chez le lecteur.
C'est la classe, la lutte des classes.
Ah non, c'est la soif de vengeance. C'est ça. C'est-à-dire que quand j'ai lu La femme de ménage, le manuscrit pour la première fois, le moment où elle lui fait le coup des dents, là, j'étais là, mais vas-y, mais morzine-née, quoi.
Alerte.
On se venge tous, et toutes, pardonnez-moi, mais nous, les filles, on se venge toutes. Eh bien, c'est peut-être pas hyper moral, mais je trouve ça pas mal. Voilà.
Alors, cette dynamique de la revanche, Élodie, c'est ça qui vous a embarqué.
Oui, non, j'allais dire que je suis d'accord avec ce que vous dites, mais... pour l'âge et notamment pour cet attrait à la vengeance et tout cet aspect de vengeance, les détails étaient pour moi très graphiques. Et c'est cette raison pour laquelle je ne recommanderais pas ce livre au moins de, on va dire, 15-16 ans. C'est plus par rapport à ça. Et je me dis que effectivement les jeunes se remettent à la lecture, mais est-ce que ça doit être à n'importe quel prix ?
Enzo, il voulait réagir. Je crois que, en tout cas, ça a embarqué les gens dans un genre qui est le thriller.
Totalement.
Qui,
et moi,
je diffère pas forcément.
Je diffère un petit peu avec les opinions évoquées. En tout cas, moi, je le catégoriserais pas du tout. Enfin, c'est pas ce que tu as dit, Elodie, de toute façon, dans la catégorie dark romance. Et je serais un peu moins conservateur, on va dire, avec le fait de ne pas le recommander à des plus jeunes. De toute façon, après, pour être très clair. Quelqu'un de très très jeune, je ne pense pas qu'il va être attiré naturellement par ce genre d'histoire, mais il y a des petits éléments graphiques, certes, mais ça reste quand même de la littérature, et entre nous, ce à quoi sont exposés les jeunes de cet âge, donc 14, 15 ans, etc., C'est, enfin voilà, ils vont s'en remettre s'ils lisent La Femme de Ménage, je pense. Et puis voilà, et les éléments sont après.
Vous nous attribuez les uns et les autres à un âge, et puis comme ça on n'en parle plus, on le met sous la couverture. Alors en dessous de.
Alors.
À partir de.
À partir de 13 ans peut-être.
Ça c'est pour vous Enzo Reed.
Peut-être un peu abusé. Hein, 14.
À partir de 14. C'est un phénomène chez les préadolescents. Hein,
parce que quand on regarde les films interdits aux moins de 12 ans, enfin ils sont quand même assez violents pour la plupart. Il y a du sang, etc. Là, on est quand même sur papier, donc il y a un peu de sensualité, etc. Mais moi, enfin de mon souvenir, j'ai pas remarqué des choses extrêmement.
À partir de 14, adjugé vendu. Élodie.
Moi, j'aurais dit à partir de 15 ans. Bon, 15 ans, ouais. 15 ans quand même.
Hélène Fiamma.
Alors moi, j'ai découvert des animes japonais d'horreur avec mon fils quand il avait 12 ans. Il en a 18 aujourd'hui. J'ai adoré ça, lui aussi. Bon, moi, ça m'a posé aucun problème. Mais ça, c'était vraiment, pour reprendre les mots de Enzo et Elodie, c'était vraiment graphique. Hein. Allez. 15-16 ans, parce que j'ai...
15, allez, 15 et demi.
C'est moi le plus jeune maintenant. Donc, je voulais vous défendre et en fait, vous me...
Alors attendez, il nous reste peu de temps. Je voudrais qu'on parle de l'autrice quand même. Frida McFadden, on sait peu de choses sur elle. Donc 44 ans, je vous le disais, mère de deux ados. Je lui avais consacré une chronique dans la matinale. Je sais qu'elle est installée dans une banlieue chic de Boston, qu'elle écrit ses histoires depuis son canapé avec un coussin pour les lombaires et un repose-pied. Et surtout, qu'elle est médecin spécialiste des lésions cérébrales. Est-ce que vous pensez que ça joue dans la façon dont elle entraîne le lecteur? Elle connaît les cerveaux, Elodie. Elle a hacké le vôtre, en tout cas.
Oui, moi je pense qu'elle a cette manière d'écrire. Et en fait, on sent ce côté, le métier de la médecine derrière, parce que tout est très cadré. Et même la manière dont le plot twist vient, on sent qu'elle a suivi une ligne directrice spécifique. Et tout comme un avocat ferait son syllogisme, son analyse, c'est exactement la même chose pour Frida McFadden.
Enzo Reed sur le cerveau.
Totalement d'accord avec ce qu'a dit Elodie, même dans la façon d'écrire. Tout à l'heure, j'évoquais un peu le minimaliste et le côté très clean de l'écriture. On a un côté qui est presque clinique au final, donc toujours sur le champ lexical de la médecine. En effet, c'est quelque chose qui est très efficace, et même les scènes un peu plus graphiques, justement, elles sont assez détaillées, et encore une fois, presque de façon clinique. Donc oui, totalement d'accord.
Hélène Fiamma, vous diriez quoi sur cette puissance pour retourner le cerveau, qui peut-être liée à la connaissance qu'elle en a, Frida McFadden?
Je suis sûre que ça entre en partie dans le talent de Frida McFadden, et pour revenir à mon préféré, donc la prof,
ouais.
Qui est portée par deux héroïnes qui sont pas très très sympas, mais qui nous emmènent dans le même type de voyage que vous connaissez. Elles ont des comportements, à mon avis, qui ne peuvent exister que parce qu'ils et qui ne sont décrit par elle que parce qu'elle a cette science-là, c'est clair.
Et d'un mot pour finir, vous avez hâte de voir l'adaptation, ce sera signé Paul Feig. Il avait fait mes meilleurs ennemis, je crois. C'est un grand de la comédie américaine. Il y a une actrice de Euphoria. Ça va bientôt sortir.
Sydney Sweeney, c'est
Sydney
ça
Sweeney,
ouais, j'ai vu. Bah, franchement, le casting a l'air intéressant et je trouve que ça peut que marcher en format cinématographique. Donc moi, je serai là, perso.
Elodie,
moi aussi, j'ai hâte de voir le film et j'espère que dans le film, elle fera un peu plus le ménage.
Et j'espère qu'Enzo sera aussi beau que dans le livre aussi.
Hélène Fiamma, on n'a pas encore le casque du garçon, je crois. Hélène Fiamma.
Moi, j'irai au cinéma avec un McDonald's double caramel, hein, et je me régalerai.
C'est bon ça, à partir de 2-3 ans quand même, hein. Attention. Merci à tous les trois d'être passés dans cette édition spéciale.
Merci
à Monde Nouveau en direct du Festival du Livre de Paris. Enzo Reed et Elodie, on vous suit sur les réseaux. Vraiment, je recommande vos vidéos. C'est des barres de rire et c'est très intéressant. Oui, Elodie.
Alors, elle m'appelle Elodie, oui, mais sur Instagram, c'est Elodie's World.
Elodie's World.
Donc, H-E-2-L-O-D-E-E-S-8 Books sur Instagram. Et sur TikTok, c'est World à la place de Books. Voilà.
Enzo Reed, c'est bon?
C'est Enzo Reed, R-E-A-D-S à la fin, sur à peu près partout. Je suis un parasite, je suis partout.
Instagram, TikTok et aussi vos podcasts. Et enfin, Hélène Fiamma, je rappelle que vous allez publier dans quelques jours La Psy et en avant-première ici au Salon du Livre, un autre roman de Frida McFadden en poche. Grand merci à tous
merci
les trois.
À vous.
Et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous avez envie de le lire? Oui! Allez, dans quelques instants, Amp Chalumeau sera à ce micro, 27 ans. Elle publie Les Vivants chez Stock, un très beau premier roman méticuleusement drôle, astucieusement profond sur le passage à l'âge adulte. On se retrouve juste après Yoa sur France Inter.
Oh non, c'est pas vrai, j'ai un peu trop laissé parler la petite voix dans ma tête. Oh non, encore elle, c'est difficile de pas l'écouter quand elle te répète. Tu es de celle qui n'avance pas au bon endroit, de celle qui trébuche à chaque pas. C'est toujours au cœur du chaos que je sens mon cœur vibrer, mélanger. pas vrai. Je suis au creux de l'ouragan, peu importe où je vais. Oh non, comment faire? J'ai, il me semble, un certain talent pour tout foutre en l'air. Je suis de ceux qui recommenceront 10 fois avant d'apprendre à marcher droit. C'est toujours au cas, au cas où que je sens mon cœur vibrer, mélanger mes rêves et ma réalité. Non, je n'ai pas peur, je vais tout abîmer, jouir de mes erreurs et tout recommencer. Me perdre, je ne peux l'éviter, confondre, je t'aime et je suis désolée. J'attends les sirènes qui viendront me sauver, faire parler mes peines pour tout recommencer.
Princesse K.O., c'était Yoa sur France Inter, autoproclamée meuf triste. Yoa, révélation saine aux dernières victoires de la musique, se livre comme jamais sur son premier album sorti fin janvier, La Favorite, qui parle d'échecs amoureux, d'échecs tout court, de doutes, de sexualité, de trauma. Bref, c'est un premier roman musical.
France Inter, un monde nouveau, en direct du Festival du Livre de Paris, Mathilde Serrel.
Et bonsoir, Ampcha Lumeau.
Bonsoir.
Bonsoir, bonjour. Le temps que vous finissiez de faire des photos avec vos fans.
Oh, vous dites ça comme si j'étais une star hollywoodienne. Bah, non, il y a une dame très gentille qui, effectivement, vient de me demander une photo.
Je vous ai dit que c'était très glamour, le Festival du Livre de Paris, cette année. Vous êtes chroniqueuse culture dans l'émission Quotidien chez Yann Barthès, mais on vous reçoit aujourd'hui pour votre premier roman, Les Vivants, chez Stock. Tout à l'heure, Hélène Fiamma, l'éditrice, nous disait que c'était important d'arriver à faire lire les préados avec Frida McFadden. Vous, dans votre boulot de chroniqueuse à Quotidien, c'est de faire lire aussi, de donner envie. C'est ce qui vous motive, c'est votre mission.
Ouais, c'est ce que je préfère faire. Franchement, je pense que ça vient du fait d'avoir été, moi, une enfant, une ado qui adorait lire. Je pense qu'on peut parler d'un truc qui a changé ma vie, la passion des livres. Et il y a des livres qui m'ont aidée, qui m'ont éblouie, qui m'ont fait grandir. Et j'adore l'idée de transmettre. Moi, si j'avais lu ce que j'avais lu quand j'étais adolescente, c'est pas du tout que j'étais plus intelligente qu'une autre. C'est qu'il y a des gens qui ont su bien me les vendre, qui ont su me parler des grands textes avec des mots à moi, des mots pour moi. Et ça, j'y crois énormément. Et je dois dire que parmi les très gentils retours que je peux entendre sur l'émission, ce que je préfère, c'est peut-être quand des jeunes viennent me dire, grâce à Quotidien, grâce à ton podcast, je fais un podcast sur les classiques littéraires que j'ai le plus aimé, on a lu Annie Ernaux, on a lu Zaphon, on a lu Sagan, et quelle claque. Ça, c'est juste merveilleux. Je pense que vous faites aussi ce métier pour ça.
Mais vous, oui, et vous metteriez quel livre dans, justement, on parlait d'un livre qui fait tout recommencer pour aimer ou réaimer la littérature. Vous, c'est quoi le livre qui restart comme ça, la lecture, ou qui y plonge?
Ah, c'est une bonne question. Je sais pas. Le premier qui me vient à l'esprit, je dirais peut-être Nicolas Mathieu. Je dirais que...
Leurs enfants après eux.
Exactement, celui-là et même Connemara, le suivant. Je pense que c'est quelque chose qui... Le lire, ça fait reprendre sa vie avec de nouvelles idées en tête. C'est un livre qui arrive tellement à changer l'ordinaire en matière littéraire qu'en sortant de là, on se dit que notre vie peut devenir la littérature aussi et que ça ne tient qu'à nous de le faire.
Donc voilà, Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu et La femme de ménage de Frida McFadden pour tout recommencer. Je vous souhaite le même succès, moi, avec Les vivants.
Oh là 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 là, c'est très gentil, ça.
De Frida McFadden. L'histoire se passe, alors j'adore cette expression, elle est à vous, à l'hémistiche des années 2010.
C'est une expression de meuf qui fait la meuf. Écoutez, il n'y en a pas beaucoup dans le livre, mais celle-là, je dois bien... Il n'y a pas beaucoup de mots de cinq syllabes comme ça, il y en a un, vous l'avez trouvé.
C'est la meuf de prépa.
Exactement, on l'a retrouvée. La terminale L qui ressort.
On est en 2015, on a trois jeunes gens, Diane, Cora et Simon, tout juste sortis de l'adolescence, qui se retrouvent précipités par un drame dans la fin de l'insouciance. En fil rouge de ce récit, un jeune homme qui tombe dans le coma à 18 ans et qui laisse ses amis se construire avec cette effarante réalité. On apprend dans un portrait signé Vanessa Schneider dans Le Monde que c'est une histoire que vous avez vécue. Le personnage de Diane, il me semble qu'il a pas mal de vous. Il commence ses 17 ans comme un enfant, il a fini comme un ancêtre.
Oui.
C'est ce que vous avez ressenti, vous, dans ce passage-là?
Oui, totalement. Effectivement, cet événement déclencheur de l'intrigue, point de départ du livre, le coma de ce jeune homme, c'est quelque chose qui est arrivé à mon meilleur ami d'enfance quand je venais d'avoir 17 ans. Ça a été le point de départ de ce livre. Ensuite, moi, mon livre est devenu un exercice de fiction. Je laisse la vérité documentaire de cette histoire à ceux qui l'ont vécu. Mais en revanche, j'en ai retenu les impressions que j'avais eues à ce moment-là. Et c'est de ça dont j'ai fait un livre.
Et donc, de devenir un ancêtre.
Oui, évidemment, c'est ridicule de se sentir adulte et même ancêtre à 17 ans. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est une pensée qui passe dans la tête de tous les ados. Ce qui est le décalage, je pense, qu'on a quand on est adolescent avec les adultes, c'est quand on est ado, on vit tout au premier degré. Tout est intense, tout est très sérieux. Chaque moment en classe est un western.
Contrairement à ce que disait le poète que vous citez.
Exactement.
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, c'était pas si vrai.
Mais lui, il le disait très sérieusement, en fait, si on regarde. Voilà. Et les adultes rient de nous voir si sérieux et si intenses. Alors que, souvenons-nous, quoi, à 17 ans, tout est une épopée, tout est une tragédie grecque et tout est un western en puissance.
Parlons des adultes, justement, parce que le passage à l'âge adulte au XXIe siècle, il n'est pas exactement le même, justement, parce que le rapport entre les enfants et les adultes n'est pas exactement le même. Parfois, vous parlez d'une ligne floue, on a l'impression que c'est une jeunesse qui est plus en rupture, mais qui est en dialogue permanent avec ses parents, qui est parfois un petit peu aussi en tutelle des parents. La jeunesse de 2015, pour vous, elle se construit plus contre?
Il y a quelque chose peut-être qui est une grande analyse de notre part sur l'âge adulte, ce qui implique beaucoup de sévérité avec les erreurs que peut-être ont fait nos parents vis-à-vis du monde, vis-à-vis de nous, mais aussi plus de tendresse. Je crois qu'on est une jeunesse qui réfléchit énormément. Et en réfléchissant, la première étape de la réflexion, c'est peut-être une colère, mais la deuxième, c'est de la compréhension. Et moi, je sais que dans ce livre, il y a ça, par exemple, vis-à-vis des personnages de parents et d'autres d'ailleurs. Il y avait des premiers élans d'émotion pure, de colère pure, vous avez raté ça ou vous faites ça mal. Et en fait, dans un deuxième mouvement, vraiment d'essayer de me mettre à leur place, c'est de constater que j'ai pas de manuel pour être parent, eux non plus n'en ont pas et on fait comme on peut. Et il y a aussi cette frontière floue entre, c'est ce que j'essaie de raconter, des enfants qui parfois sont stupéfiants de maturité et de sérieux et d'anxiété et d'analyse et des parents qu'on surprend à se comporter comme des gamins et à être paumés comme des gamins. Il y a quelque chose d'assez beau là-dedans aussi.
Et c'est très présent dans le livre et c'est ça qui est intéressant aussi de voir les marqueurs de ce 21e siècle quand même. C'est un classique, le passage à l'âge adulte en littérature, on peut avoir, je sais pas, L'éducation sentimentale de Flaubert, un héros comme Frédéric Moreau, on peut avoir Salinger, l'attrape-cœur. Donc comment on fait au XXIe siècle, comment on raconte les choses différemment? Moi, ce que je vois, par exemple, c'est que c'est une jeunesse, évidemment, pour qui les réseaux vont aussi bouleverser complètement le rapport aux choses. Vous dites, on a appris la drague sur les réseaux.
Totalement.
Qu'est-ce que vous aviez envie de tirer dans cette ambiance comme ça, numérique, qui n'était pas celle de ceux qui vous ont précédé? C'était pas chez Flaubert.
Ah bah c'est un outil narratif. C'est sûr que si Madame Bovary avait eu Twitter, l'histoire serait très différente. Je sais pas, moi très, très, très humblement, mais je dis humblement, ça se trouve c'est déjà extrêmement arrogant comme démarche, mais ce texte, j'ai commencé à l'écrire pour mettre sur papier les impressions de mon année de mes 17 ans. Donc en mettant sur le papier des impressions, j'ai aussi photographié le cadre dans lequel elles arrivaient. tout bêtement. Moi, le livre se passe en 2014 parce que j'avais 17 ans en 2014. Et à l'époque, en 2014, toute relation amoureuse, toute relation d'amitié, tout drame avait son empreinte sur les réseaux sociaux. Donc c'était un cadre un peu inévitable et qui donne à certains moments de l'intrigue. Mais comme à l'époque, tout passait par là, c'était pas tant une démarche que quelque chose d'assez inévitable dès lors que je racontais ce cadre-là.
Et vous vous en servez. Bon, tout le monde est sur Facebook, qui à l'époque est le réseau qui règne en maître. Ce serait plus du tout le cas aujourd'hui, mais
non,
en tout cas,
du tout.
Vraiment en 2014-2015, tout le monde est là. Tout le monde donne ses données, d'ailleurs, aux quatre vents, à vous le souligner. Personne ne se dit, tiens, ça servira à quelqu'un. Pourquoi je mettrais des photos aussi intimes de moi, etc. Et vous en servez aussi comme outil narratif, parce que c'est un moment d'espionnage, en fait. C'est pas rien, quand on a 17 ans, justement, de se rendre compte qu'on peut enquêter sur les likes, les posts des uns et des autres.
Ah, mais
ça,
bien
vous avez
sûr
voulu le mettre.
Il y a des parents qui peut-être à l'époque se disaient de leurs enfants qu'ils n'étaient pas doués à l'école et doués en rien, sans savoir qu'en fait dans la chambre de leur ado se cachait un maître de la DGSI en puissance, capable de retrouver n'importe quelle personne croisée en soirée de loin, rien qu'avec Facebook, capable de stocker un crush jusqu'à obtenir son numéro de sécurité sociale et son groupe sanguin. Enfin, c'est quand même un talent. C'est un talent. Je ne sais pas si on est tous arrivés à en faire des carrières derrière, mais il y a beaucoup d'agents secrets en puissance qui se perdent.
On ne reconnaît pas assez cette fibre dans cette génération 2015. C'est aussi une génération qui a grandi avec les séries. Et on connaît, il y a un format internet qui s'appelle Life versus the Movie, la vie contre les films. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Et on a le sentiment que dans votre roman, enfin, en quoi vous avez voulu raconter aussi ce que c'était la vie versus les séries.
Exactement, je dirais qu'il y a peut-être dans ce livre à la fois le triste constat qu'effectivement les films ne préparent pas totalement bien à la vie, je pense à la vie de couple. C'est comme le héros de ce roman que j'adore, Haute Fidélité, qui explique qu'il sait tout ce qu'il sait de l'amour grâce à la pop musique anglaise et que donc il se prend râteau sur râteau parce que ça ne l'a pas du tout préparé à être un bon dragueur et un bon petit copain. Moi j'ai tiré beaucoup de notions des films et je pense que grandir c'est constater pas mal de mensonges. Les films nous mentent sur la première fois par exemple, les films nous montrent sur
ce que c'est quelqu'un dans le coma, c'est ce qu'on découvre aussi dans votre roman.
Et donc il y a ce constat-là, le coma de mon ami n'était pas du tout comme dans la série Urgence, il n'avait pas du tout le même brushing, mais dans ce livre il y a aussi le constat que les films viennent à la rescousse. Dans d'autres moments, je pense par exemple à la prépa, qui moi était un passage un peu compliqué de mon existence car j'y étais nulle, une manière pour moi de me sauver de cette nullité c'était d'arriver à en rire, et là-dedans venaient à ma rescousse des références de cinéma. Je me disais, voilà, je suis dans Full Metal Jacket, je suis un petit maigrichon qui n'arrive pas à faire les pompes, qui n'arrive pas à faire son lit, qui n'arrive pas à nettoyer un fusil, et ça m'aidait. Ça, avoir des références qui me venaient en tête m'aidait à apprivoiser un moment nouveau et flippant. Donc le cinéma nous ment, mais il vient aussi à la rescousse, c'est pas mal de moments.
On parle de Simon, justement l'un des personnages lorsqu'il est dans le coma, et puis on va avoir autour de lui les personnages, vous avez parlé de Diane qui est assez proche de vous, qui a des difficultés dans sa prépa, Cora qui va, elle, être abusée par son petit ami, j'en dirai pas plus, mais en tout cas, lorsque vous faites le portrait de l'agresseur, vous racontez qu'il est biberonné à la masculinité technique des écoles de commerce, où l'on apprend en fait à la négociation et où on apprend que no is not an answer, non n'est pas une réponse. En quoi vous avez voulu vous mettre finalement dans sa tête pour comprendre ce qui glisse vers une agression, mais ce qui est aussi un conditionnement?
Ça fait écho un petit peu à ce dont on parlait tout à l'heure, le passage de la colère à la réflexion. Je pense que mes premiers réflexes adolescents étaient de la colère pure, et ils sont consignés dans ce livre. Il y a des passages écrits sur les agressions sexuelles qui ne sont que de la colère pure, que l'indignation face à l'injustice. Et c'est bien qu'ils aient été laissés un peu tels quels, mais derrière sont venus s'ajouter des moments de profonde réflexion. J'ai beaucoup d'amis, malheureusement, qui ont été agressés sexuellement, et dans aucun cas, c'était un échappé de l'asile dans une ruelle sombre à 3h du matin. C'est toujours des gens qu'on connaissait, des gens qui peut-être nous avaient fait rire 2 heures avant en soirée. C'est quand même profondément mystifiant, narrativement aussi terriblement intéressant. Et voilà, chaque personnage de ce livre...
Et vous l'avez observé aussi, ce profil endoctriné, on pourrait dire, dans votre
génération. Oui, ça vient d'une profonde réflexion. Chaque personnage du livre sert un peu de vaisseau à des blagues ou des réflexions que je me fais. Et un jour, alors que j'écoutais un énième start-upper parler de son énième start-up et rappeler cette mentalité de « never take no for an answer », toujours relancer, quand on te ferme la porte, passe par la fenêtre. Je me disais, c'est dingue, c'est l'inverse exact du consentement. Comment des mecs qui font ça toute la journée ne l'appliquent pas derrière à leur relation? Ça m'a interrogée.
Il nous reste quelques secondes. Je voudrais qu'on termine sur cet extrait. Il y a différents types de moteurs dans la vie. Certains s'enivrent du futur, ils voient un million de possibilités géniales, ils croient dur comme fer. D'autres trouvent leur force dans le passé, dans la rage. Leur perspective d'avenir est une cathédrale de vengeance construite sur des piliers de rancœur. Diane est de cela. Elle n'oublie pas, à chaque décision qu'elle prend depuis une dizaine d'années, qu'elle est conditionnée par le jour où Alice Blanchard lui a dit qu'elle était moche et que personne ne l'aimait devant tout le monde en cours de sport.
C'est vrai, c'est arrivé.
Ça, c'est votre texte. C'est votre moteur aussi, alors? Ou pas?
Ça l'a été, ça ne l'est plus, heureusement. Ça a été un moment de colère tel quel et qui, depuis, est contrebalancé par plein d'autres choses.
Bravo, en tout cas, pour Merci Les beaucoup. Vivants. Ce premier roman chez Stock, vous pouvez applaudir Ambre Chalumeau.
Merci.
Des punchlines, il y en a encore beaucoup à découvrir. Merci beaucoup à vous, merci au public du Festival du Livre de Paris. Vous pouvez vous applaudir vous-même. Oui! Alors là, attention là, il y a un peu confiance en vous. Merci à tous ceux qui ont travaillé à cette émission. La rédaction en chef, c'est Redouane Tella. La réalisation, c'est Fred Milano. La préparation, Marion Philippe. À la programmation musicale, c'est Juliette L'Orphelin. Et je remercie ici toute l'équipe technique qui a rendu possible ce direct au Festival du Livre de Paris. Pascal Bresse, Thierry Marsan, Johanna Gabric, Olivia Branger, David Abécassis, Charles Bouticourt, Alexandre James et Martin Guénard. Dans un instant, c'est Bistroscopie avec notre chère Charline Vanhoenacker.